Une bonne nouvelle d'après Jean, lecture suivie de l'évangile de Saint Jean, dans une traduction transposition de Vincent-Paul Toccoli, salésien de Don Bosco.
Cette question avec laquelle je terminais le précédent commentaire, je ne sais pas si, cher auditeur, vous étiez là la dernière fois. Il s'agit des comportements inattendus de Dieu et de Jésus, puisque c'est de l'Évangile dont nous parlons, vis-à-vis de nos attentes. Nous pensons qu'à telle attitude ou à tel événement, Dieu devrait se comporter comme ceci ou comme cela. Eh oui, il devrait. Comme on dit à des personnes qui ont fait ou qui vont faire quelque chose, tu devrais, tu aurais dû. Vous avez remarqué que nous avons toujours tendance à savoir ce que les autres auraient dû faire, comment ils devraient se comporter. Moi qui ai aussi une pratique à la fois sacerdotale et psychanalytique, qu'est-ce que je devrais faire, monsieur, mon père, mon général, ma sœur? Mais je ne sais pas ce que vous devez faire. Nous pouvons étudier ensemble la situation et à partir de cette situation, de voir quels sont les possibles pour vous, selon vos capacités. Les pharisiens étaient-ils capables, au niveau de l'ouverture de leur esprit, de leurs attentes, de leurs habitudes, de leurs traditions, étaient-ils aptes à faire, à l'intérieur du système de la foi, de la croyance, de la tradition qu'ils poursuivaient, qu'ils protégeaient, étaient-ils aptes à imaginer que cela pouvait se présenter d'une autre façon aussi, et qu'on pouvait y atteindre par d'autres biais? De même, l'attitude devant quelqu'un qui va mourir, est-elle nécessairement de se plaindre, de crier, de se taper la poitrine? C'est le cas qu'on a tenté. Comment votre mère, votre frère, votre soeur, votre général est en train de mourir? Mais mon Dieu, le monde va s'arrêter. Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Non, il n'y a pas qu'une seule attitude. Certains ont besoin de pousser des cris, d'autres non. C'est toute la tragédie d'un système, l'Église, qui est un système, qui doit aussi procéder par organisation du savoir sur la foi, et qui doit dire c'est ça qu'il faut croire, c'est ça qu'il ne faut pas croire. Voilà. Mais est-ce qu'on peut croire comme ça? Est-ce que l'adhésion n'est pas tellement personnelle par un contact, par un attrait, une sollicitation intime qui fait que c'est dès qu'on entre dans le mystère de l'autre qu'on peut éventuellement, sinon comprendre, du moins admettre. Mais comme d'habitude, poursuivons.
La route grimpe de Béthanie sur Jourdain à Béthanie près de Jérusalem. Mais il n'y a qu'une vingtaine de kilomètres. Vers midi, Jésus et ses compagnons se rendirent directement au cimetière où reposait Lazare. Et comme l'endroit n'était pas éloigné de la capitale, beaucoup d'amis s'étaient déplacés pour venir présenter leurs condoléances à Marthe et Marie. Dès que Marthe apprit l'arrivée de Jésus, elle se précipita à sa rencontre, tandis que Marie restait prostrée dans la maison.
« Jésus, ah Jésus, si tu avais été chez nous, mon frère ne serait pas mort. Mais même maintenant, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te le donnera. »
Jésus serrait Marthe dans ses bras, le visage perdu dans ses longs cheveux noirs. Il lui dit dans un sanglot retenu, « Ton frère ressuscitera. »
« je sais, continua de pleurer Marthe, je sais qu'il ressuscitera lors de la résurrection au dernier jour. »
Alors Jésus prit Marthe par les deux épaules et la fixant dans ses yeux, épuisée par la douleur, il lui déclara fortement, « Je suis la résurrection, je suis la vie. Celui qui croit en moi durant sa vie ne mourra jamais.
Crois-tu cela ?»«
Oui, répondit-elle, je crois que tu es le Messie, je crois que tu es le Fils de Dieu, je crois que tu es celui qui devait venir. »
Et s'arrachant aux mains de Jésus, elle courut à la maison avertir Marie.
Elle se pencha sur sa joue en lui murmurant à l'oreille, « Marie, le maître est là et il t'appelle. »
En un éclair, Marie fut saisie d'une folle espérance. Son corps tout entier frémissait tandis qu'à son tour, elle se précipitait à la rencontre de Jésus. Jésus n'était pas encore entré dans le village. Il se trouvait toujours à l'endroit où Marthe l'avait rencontré. Les amis de la famille se mirent à courir à la suite de Marie, pensant qu'elle se rendait de nouveau au tombeau pour s'y lamenter. Marie, à perdre haleine, les cheveux défaits, le vêtement débraillé, se hâtait vers l'espérance. Elle se jeta littéralement aux pieds de Jésus et eut les mêmes mots que sa sœur.
« Jésus, Jésus, si tu avais été chez nous, mon frère ne serait pas mort. »
En les voyant se lamenter, Marie et les amis, Jésus frémit au plus profond de lui-même. Son visage se troubla. « Où l'avez-vous déposé ? » cria-t-il d'une voix décomposée.
« Viens voir !»
Et Jésus pleura, et chacun de dire, « Voyez comme il l'aimait. » Au milieu de la douleur, une voix s'éleva. « Celui qui a ouvert les yeux de l'aveugle n'a pas été capable d'empêcher Lazare de mourir. » De nouveau, Jésus frémit de tout son être. Il se rendit au sépulcre. C'était une grotte, une pierre enfermait l'entrée. « Enlevez cette pierre !» Marthe lui prit le bras. « Jésus, il doit déjà sentir. Cela fait 4 jours. » Mais Jésus presque brutalement retira son bras. « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» On ôta la pierre. Alors Jésus leva les yeux au ciel. « Père, sois béni, car tu m'as exaucé. Je sais bien que tu m'exauces toujours. » Mais j'ai dit tout cela pour cette foule qui m'entoure. Ils doivent croire que tu m'as envoyé. Alors il cria, « Lazare, sors de là !» Et celui qui était mort sortit, les mains et les pieds attachés de bandes, le visage enveloppé d'un linge. « Déliez-le et laissez-le aller !» Jamais silence n'avait autant résonné dans le cœur de tous, une telle résonance que beaucoup crurent en Jésus. D'autres, il n'y en a toujours que rien ni personne ne convainc. D'autres s'en allèrent immédiatement chez les pharisiens pour leur rapporter l'affaire. On convoqua un conseil d'urgence. Qu'allons-nous faire? Cet homme, ça commence à suffire. Si nous le laissons continuer à faire des signes, tous finiront par croire en lui. Les Romains interviendront et ils nous détruiront, nous et le temple. Caïphe, le grand prêtre en fonction cette année-là, eut une drôle de parole. Vous ne comprenez rien? Et vous ne voyez pas que votre avantage, c'est qu'un seul homme meurt pour le peuple? Ainsi la nation ne périra pas tout entière. » Difficile à croire qu'il ait dit cela de lui-même. C'était une véritable prophétie. Que le grand prêtre la prononce, et tout s'éclaire. Il fallait que Jésus meure pour la nation, et non seulement pour elle, mais pour réunir dans l'unité les hommes dispersés. C'est ce jour-là qu'ils décidèrent de le faire périr. Jésus s'abstint désormais d'aller venir ouvertement en Judée. Avec ses disciples, il se retira près d'une région désertique, à Éphraïm, à 20 kilomètres au nord de Jérusalem. Tout était en place pour la dernière semaine, celle qu'on appelle la Semaine Sainte.
Deux réflexions qui viennent de ces textes sont en écho de ce que j'ai essayé pour nous, chers auditeurs et moi-même, de saisir de ce qui a été écrit il y a 2000 ans. Il y a d'abord la réflexion normale, tout à fait normale, de Marie et de Marthe, qui est la suivante. Si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Ça, on ne peut pas imaginer que quelqu'un qui fait tout ce qu'il fait devant la maladie mortelle de Lazare n'est pas intervenu. Donc, première partie de leur réflexion, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Mais je sais que tout ce que tu feras, Dieu te l'accordera. Voilà, il y a cette foi a priori qui fait « je ne comprends pas pourquoi tu n'as pas été là, je ne comprends pas pourquoi tu as mis tant de temps à monter, c'est ton affaire, il y a peut-être des choses que je peux ignorer, que je ne sais pas. » Mais ce que je sais, Marthe et Marie le disent, c'est que tout ce que tu décideras de faire, Dieu te l'accordera. C'est d'ailleurs en écho que Jésus lui dit aussi à Dieu, « Père, je sais que tu m'as exaucé. » Un passé, la chose est déjà réalisée. Mais j'ai parlé comme cela pour tous ces gens qui attendent. Je sais déjà. La foi que Marie et Marthe ont en Jésus, c'est la même foi que Jésus a envers son Père. En ce sens-là, Jésus est le premier des croyants. Et puis il y a l'autre côté. Ceux qui ne veulent jamais rien comprendre, les gens qui sont épouvantables, qui vous gâchent une soirée, qui n'entendent rien, qui comprennent rien. C'est ceux-là qui disent comment quelqu'un qui a, comme on l'a vu tout à l'heure, guéri l'aveugle-né, n'est donc pas capable de... Voilà, parce que ça s'est passé comme ça d'un côté, ça doit se passer comme ça de l'autre. Comme s'il n'y avait toujours qu'une seule façon d'agir, qu'une seule façon de vivre, qu'une seule façon de croire. Et c'est ça qui a tué Jésus de Nazareth. C'est qu'on pense qu'on ne peut faire les choses que d'une seule façon. Eh bien non, on ne peut pas croire d'une seule façon. On croit suivant la façon que Dieu nous donne de croire. S'il était prévu dans le plan de Dieu que Lazare dût mourir pour que Jésus fasse éclater la gloire de Dieu, eh bien c'est comme ça que ça devait se passer. Et si les gens, si les hommes, si les êtres humains ont confiance en Dieu malgré tout, même s'ils ne comprennent pas ce qui se passe, la mort d'un ami, un événement malheureux, une déception, n'importe quel malheur, eh bien la foi fait dire « je ne comprends pas ce qui se passe ». Mais deuxièmement, je sais que ça a un sens. Et troisièmement, ma foi consiste à découvrir le sens de ce qui arrive.
C'était une bonne nouvelle d'après Jean, une traduction-transposition du père Vincent-Paul Toccoli. Daniel Chavy a prêté sa voix pour la lecture. Merci et à bientôt.